Le capital sans les notes. Livre 1er, première section, chapitre grand 2. Des échanges. Les marchandises ne peuvent point aller elles-mêmes au marché, ni s'échanger elles-mêmes entre elles. Il nous faut donc tourner nos regards vers leurs gardiens et conducteurs, c'est-à-dire vers leurs possesseurs. Les marchandises sont des choses et, conséquemment, n'opposent à l'homme aucune résistance. Si elle manque de bonne volonté, il peut employer la force, en d'autres termes, s'en emparer. Pour mettre ces choses en rapport les unes avec les autres à titre de marchandises, leurs gardiens doivent eux-mêmes se mettre en rapport entre eux à titre de personnes dont la volonté habite dans ces choses mêmes, de telle sorte que la volonté de l'un est aussi la volonté de l'autre, et que chacun s'approprie la marchandise étrangère en abandonnant la sienne au moyen d'un acte volontaire commun. Ils doivent donc se reconnaître réciproquement comme propriétaires privés. Ce rapport juridique, qui a pour forme le contrat, légalement développé ou non, n'est que le rapport des volontés dans lequel se reflète le rapport économique. Son contenu est donné par le rapport économique lui-même. Les personnes n'ont affaire ici les unes aux autres qu'autant qu'elles mettent certaines choses en rapport entre elles comme marchandises. Elles n'existent les unes pour les autres qu'à titre de représentants de la marchandise qu'elles possèdent. Nous verrons d'ailleurs, dans le cours du développement, que les masques divers dont elles s'affublent, suivant les circonstances, ne sont que les personnifications des rapports économiques qu'elles maintiennent les unes vis-à-vis des autres. Ce qui distingue surtout l'échangiste de sa marchandise, c'est que, pour celle-ci, toute autre marchandise n'est qu'une forme d'apparition de sa propre valeur. Naturellement débauchée et cynique, elle est toujours sur le point d'échanger son âme et même son corps avec n'importe quelle autre marchandise. Cette dernière fut-elle aussi dépourvue d'attrait que Marie Thorne. Ce sens qui lui manque pour apprécier le côté concret de ses sœurs, l'échangiste le compense et le développe par ses propres sens à lui, au nombre de 5 et plus. Pour lui, la marchandise n'a aucune valeur utile immédiate. S'il en était autrement, il ne l'amènerait pas au marché. La seule valeur utile qu'il lui trouve, c'est qu'elle est porte-valeur utile à d'autres et, par conséquent, un instrument d'échange. Il veut donc l'aliéner pour d'autres marchandises dont la valeur d'usage puisse le satisfaire. Toutes les marchandises sont des non-valeurs d'usage pour ceux qui les possèdent et des valeurs d'usage pour ceux qui ne les possèdent pas. Aussi, faut-il qu'elles passent d'une main dans l'autre sur toute la ligne. Mais ce changement de main constitue leur échange, et leur échange les rapporte les unes aux autres comme valeurs et les réalise comme valeurs. Il faut donc que les marchandises se manifestent comme valeurs avant qu'elles puissent se réaliser comme valeurs d'usage. D'un autre côté, il faut que leur valeur d'usage soit constatée avant qu'elles puissent se réaliser comme valeurs. Car le travail humain dépensé dans leur production ne compte qu'autant qu'il est dépensé sous une forme utile à d'autres. Or, leur échange seul peut démontrer si ce travail est utile à d'autres, c'est-à-dire si son produit peut satisfaire des besoins étrangers. Chaque possesseur de marchandises ne veut l'aliéner que contre une autre dont la valeur utile satisfait son besoin. En ce sens, l'échange n'est pour lui qu'une affaire individuelle. En outre, il veut réaliser sa marchandise comme valeur dans n'importe quelle marchandise de même valeur qui lui plaise, sans s'inquiéter si sa propre marchandise a pour le possesseur de l'autre une valeur utile ou non. Dans ce sens, l'échange est pour lui un acte social général. Mais le même acte ne peut être simultanément pour tous les échangistes de marchandises simplement individuels et, en même temps, simplement social et général. Considérons la chose de plus près. Pour chaque possesseur de marchandises, toute marchandise étrangère est un équivalent particulier de la sienne. Sa marchandise est, par conséquent, l'équivalent général de toutes les autres. Mais, comme tous les échangistes se trouvent dans le même cas, aucune marchandise n'est équivalent général, et la valeur relative des marchandises ne possède aucune forme générale sous laquelle elles puissent être comparées comme quantité de valeur. En un mot, elles ne jouent pas les unes vis-à-vis des autres le rôle de marchandise, mais celui de simple produit ou de valeur d'usage. Dans leur embarras, nos échangistes pensent comme Faust. Au commencement était l'action. Aussi ont-ils déjà agi avant d'avoir pensé, et leur instinct naturel ne fait que confirmer les lois provenant de la nature des marchandises. Ils ne peuvent comparer leurs articles comme valeur, et par conséquent comme marchandise, qu'en les comparant à une autre marchandise quelconque qui se pose devant eux comme équivalent général. C'est ce que l'analyse précédente a déjà démontré. Mais cet équivalent général ne peut être le résultat que d'une action sociale. Une marchandise spéciale est donc mise à part par un acte commun des autres marchandises et sert à exposer leurs valeurs réciproques. La forme naturelle de cette marchandise devient ainsi la forme équivalent socialement valide. Le rôle d'équivalent général est désormais la fonction sociale spécifique de la marchandise exclue et elle devient argent. Citation. Illi unum concilium habent, et virtutem, et potestatem suam bestiae tradunt. Et nequi possit emere, aut vendere, nisi qui habet caracterem, aut nomem bestiae, aut numerum nominis eius. Fin de citation. Ils ont tous un même dessein et ils donneront à la bête leur force et leur puissance. Et que personne ne puisse ni acheter ni vendre que celui qui aura le caractère ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ouvrez la parenthèse, Apocalypse, fermez la parenthèse. L'argent est un cristal qui se forment spontanément dans les échanges par lesquels les divers produits du travail sont en fait égalisés entre eux et, par cela même, transformés en marchandises. Le développement historique de l'échange imprime de plus en plus aux produits du travail le caractère de marchandises et développe en même temps l'opposition que recèle leur nature, celle de valeur d'usage et de valeur. Le besoin même du commerce force à donner un corps à cette antithèse, tend à faire naître une forme valeur palpable et ne laisse plus ni repos ni trêve jusqu'à ce que cette forme soit enfin atteinte par le dédoublement de la marchandise en marchandise et en argent. À mesure donc que s'accomplit la transformation générale des produits du travail en marchandises, s'accomplit aussi la transformation de la marchandise en argent. dans l'échange immédiat des produits. L'expression de la valeur revêt d'un côté la forme relative simple et de l'autre ne la revêt pas encore. Cette forme était X marchandise grand A égale Y marchandise grand B. La forme de l'échange immédiat est X objet d'utilité grand A égale Y objet d'utilité grand B. Les objets grand A et grand B ne sont point ici des marchandises avant l'échange, mais le deviennent seulement par l'échange même. Dès le moment qu'un objet utile dépasse, par son abondance, les besoins de son producteur, il cesse d'être valeur d'usage pour lui, et les circonstances données sera utilisé comme valeur d'échange. Les choses sont par elles-mêmes extérieures à l'homme et par conséquent aliénables. Pour que l'aliénation soit réciproque, il faut tout simplement que des hommes se rapportent les uns aux autres par une reconnaissance tacite comme propriétaires privés de ces choses aliénables et, par là même, comme personnes indépendantes. Cependant, un tel rapport d'indépendance réciproque n'existe pas encore pour les membres d'une communauté primitive, quelle que soit sa forme, famille patriarcale, communauté indienne, état inca comme au Pérou, etc. L'échange des marchandises commence là où les communautés finissent, à leur point de contact avec des communautés étrangères ou avec des membres de ces dernières communautés. Dès que les choses sont une fois devenues des marchandises dans la vie commune avec l'étranger, elles le deviennent également par contre-coup dans la vie commune intérieure. La proportion dans laquelle elles s'échangent est d'abord purement accidentelle. Elles deviennent échangeables par l'acte volontaire de leurs possesseurs qui se décident à les aliéner réciproquement. Peu à peu, le besoin d'objets utiles provenant de l'étranger se fait sentir davantage et se consolide. La répétition constante de l'échange en fait une affaire sociale régulière et, avec le cours du temps, une partie au moins des objets utiles est produite intentionnellement en vue de l'échange. À partir de cet instant, s'opère d'une manière nette la séparation entre l'utilité des choses pour les besoins immédiats et leur utilité pour l'échange à effectuer entre elles, c'est-à-dire entre leur valeur d'usage et leur valeur d'échange. D'un autre côté, la proportion dans laquelle elles s'échangent commence à se régler par leur production même. L'habitude les fixe comme quantité de valeur. Dans l'échange immédiat des produits, chaque marchandise est moyen d'échange immédiat pour celui qui la possède, mais pour celui qui ne la possède pas, elle ne devient équivalent que dans le cas où elle est pour lui une valeur d'usage. L'article d'échange n'acquiert donc encore aucune forme valeur indépendante de sa propre valeur d'usage ou du besoin individuel des échangistes. La nécessité de cette forme se développe à mesure qu'augmente le nombre et la variété des marchandises qui entrent peu à peu dans l'échange. Et le problème éclot simultanément avec les moyens de le résoudre. Des possesseurs de marchandises n'échangent et ne comparent jamais leurs propres articles avec d'autres articles différents, sans que diverses marchandises soient échangées et comparées comme valeur par leurs maîtres divers, avec une seule et même troisième espèce de marchandise. Une telle troisième marchandise, en devenant équivalent pour diverses autres, acquiert immédiatement, quoique dans d'étroites limites, la forme équivalent générale ou sociale. Cette forme générale naît et disparaît avec le contact social passager qui l'a appelé à la vie et s'attache rapidement et tour à tour, tantôt à une marchandise, tantôt à l'autre. Dès que l'échange a atteint un certain développement, elle s'attache exclusivement à une espèce particulière de marchandise ou se cristallise sous forme argent. Le hasard décide d'abord sur quel genre de marchandise elle reste fixée. On peut dire cependant que cela dépend en général de deux circonstances décisives. La forme argent adhère ou bien aux articles d'importation les plus importants, qui révèlent en fait les premiers la valeur d'échange des produits indigènes, ou bien aux objets, ou plutôt à l'objet utile, qui forme l'élément principal de la richesse indigène aliénable, comme le bétail, par exemple. Les peuples nomades développent les premiers la forme argent, parce que tout leur bien et tout leur avoir se trouvent sous forme mobilière et par conséquent immédiatement aliénables. De plus, leur genre de vie les met constamment en contact avec des sociétés étrangères et les sollicite par cela même à l'échange des produits. Les hommes ont souvent fait de l'homme même, dans la figure de l'esclave, la matière primitive de leur argent. Il n'en a jamais été ainsi du sol. Une telle idée ne pouvait naître que dans une société bourgeoise déjà développée. Elle date du dernier tiers du XVIIe siècle et sa réalisation n'a été essayée sur une grande échelle par toute une nation qu'un siècle plus tard, dans la Révolution de 1789, en France. À mesure que l'échange brise ses liens purement locaux et que par suite, la valeur des marchandises représente de plus en plus le travail humain en général, la forme argent passe à des marchandises que leur nature rend aptes à remplir la fonction sociale d'équivalent général, c'est-à-dire aux métaux précieux, que maintenant, bien que, ouvrez les guillemets, par nature, l'or et l'argent ne soient pas monnaie, mais que, entre crochets, la monnaie soit, par nature, or et argent, fermez les guillemets, c'est ce que montre l'accord et l'analogie qui existent entre les propriétés naturelles de ces métaux et les fonctions de la monnaie. Mais jusqu'ici, nous ne connaissons qu'une fonction de la monnaie, celle de servir comme forme de manifestation de la valeur des marchandises, ou comme matière dans laquelle les quantités de valeur des marchandises s'expriment socialement. Or, il n'y a qu'une seule matière qui puisse être une forme propre à manifester la valeur ou servir d'image concrète du travail humain abstrait et conséquemment égal. C'est celle dont tous les exemplaires possèdent la même qualité uniforme. D'un autre côté, comme des valeurs ne diffèrent que par leur quantité, la marchandise monnaie doit être susceptible de différences purement quantitatives. Elle doit être divisible à volonté et pouvoir être recomposée avec la somme de toutes ses parties. Chacun sait que l'or et l'argent possèdent naturellement toutes ces propriétés. La valeur d'usage de la marchandise monnaie devient double. Outre sa valeur d'usage particulière comme marchandise, ainsi, l'or, par exemple, sert de matière première pour articles de luxe, pour boucher les dents creuses, etc. Elle acquiert une valeur d'usage formelle qui a pour origine sa fonction sociale spécifique. Comme toutes les marchandises ne sont que des équivalents particuliers de l'argent, et que ce dernier est leur équivalent général, ils jouent vis-à-vis d'elles le rôle de marchandise universelle, et elles ne représentent vis-à-vis de lui que des marchandises particulières. On a vu que la forme argent ou monnaie n'est que le reflet des rapports de valeur de toutes sortes de marchandises dans une seule espèce de marchandise. Que l'argent lui-même soit marchandise, cela ne peut donc être une découverte que pour celui qui prend pour point de départ sa forme tout achevée, pour en arriver à son analyse ensuite. Le mouvement des échanges donne à la marchandise qu'il transforme en argent non pas sa valeur, mais sa forme-valeur spécifique. Confondant deux choses aussi disparates, on a été amené à considérer l'argent et l'or comme des valeurs purement imaginaires. Le fait que l'argent, dans certaines de ses fonctions, peut être remplacé par de simples signes de lui-même, a fait naître cette autre erreur qu'il n'est qu'un simple signe. D'un autre côté, il est vrai, cette erreur faisait pressentir que, sous l'apparence d'un objet extérieur, la monnaie déguise en réalité un rapport social. Dans ce sens, toute marchandise serait un signe, parce qu'elle n'est valeur que comme enveloppe matérielle du travail humain dépensé dans sa production. Mais dès qu'on ne voit plus que de simples signes dans les caractères sociaux que revêtent les choses, ou dans les caractères matériels que revêtent les déterminations sociales du travail, sur la base d'un mode particulier de production, on leur prête le sens de fiction conventionnelle, sanctionné par le prétendu consentement universel des hommes. C'était là le mode d'explication en vogue au XVIIIe siècle. Ne pouvant encore déchiffrer ni l'origine ni le développement des formes énigmatiques des rapports sociaux, on s'en débarrassait en déclarant qu'elles étaient d'invention humaine et non pas tombées du ciel. Nous avons déjà fait la remarque que la forme équivalente d'une marchandise ne laisse rien savoir sur le montant de sa quantité de valeur. Si l'on sait que l'or est monnaie, c'est-à-dire échangeable contre toutes les marchandises, on ne sait point pour cela combien valent, par exemple, 10 livres d'or. Comme toute marchandise, l'argent ne peut exprimer sa propre quantité de valeur que relativement dans d'autres marchandises. Sa valeur propre est déterminée par le temps de travail nécessaire à sa production et s'exprime dans le quantum de toute autre marchandise qui a exigé un travail de même durée. Cette fixation de sa quantité de valeur relative a lieu à la source même de sa production, dans son premier échange. Dès qu'il entre dans la circulation comme monnaie, sa valeur est donnée. Déjà, dans les dernières années du XVIIe siècle, on avait bien constaté que la monnaie est marchandise. L'analyse n'en était cependant qu'à ses premiers pas. La difficulté ne consiste pas à comprendre que la monnaie est marchandise, mais à savoir comment et pourquoi une marchandise devient monnaie. Nous avons déjà vu que, dans l'expression de valeur la plus simple, x marchandise grand A égale y marchandise grand B. L'objet dans lequel la quantité de valeur d'un autre objet est représentée semble posséder sa forme équivalente, indépendamment de ce rapport, comme une propriété sociale qu'il tire de la nature. Nous avons poursuivi cette fausse apparence jusqu'au moment de sa consolidation. Cette consolidation est accomplie dès que la forme équivalent générale s'est attachée exclusivement à une marchandise particulière ou s'est cristallisée sous forme argent. Une marchandise ne paraît point devenir argent parce que les autres marchandises expriment en elles réciproquement leur valeur. Tout au contraire, ces dernières paraissent exprimer en elles leur valeur parce qu'elle est argent. Le mouvement qui a servi d'intermédiaire s'évanouit dans son propre résultat et ne laisse aucune trace. Les marchandises trouvent, sans paraître y avoir contribué en rien, leur propre valeur représentée et fixée dans le corps d'une marchandise qui existe à côté d'elle et en dehors d'elle. Ces simples choses, argent et or, telles qu'elles sortent des entrailles de la terre, figurent aussitôt comme incarnation immédiate de tout travail humain. De là, la magie de l'argent.